Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous Céline Landreau, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. L'assaillant de la gare du Nord face aux enquêteurs au lendemain de l'attaque à l'arme blanche qui a fait 6 blessés dans la gare parisienne, ils vont tenter d'en savoir plus sur les motivations de cet homme qui était sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français vers la Libye. Mais ce genre d'OQTF est-elle applicable ? Sur quels critères d'ailleurs ces décisions sont prises? On y reviendra longuement dans une dizaine de minutes. Dans cette édition également, la mobilisation contre les retraites qui s'organise dans les raffineries notamment. La première ministre appelle aujourd'hui les syndicats à ne pas pénaliser les Français. 2 ans de prison avec sursis pour le chasseur qui a tué Morgan Keane, ce jeune de 25 ans touché par balle alors qu'il coupait du bois dans son jardin. Et puis faut-il rendre obligatoire l'uniforme dans nos écoles? C'est la question du jour sur notre site rtl.fr. C'est aussi celle que l'on posera à 12h40 à Michel Fiz, sociologue, auteur de L'école à la ramasse. En tout cas, Brigitte Macron, elle, y est favorable, elle le dit, et ça fait grincer quelques dents.
RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes, RTL Midi, un jour chez vous en France, et on va continuer à parler de l'école.
Oui, puisqu'à Lyon, des étudiants se sont fait épingler après avoir utilisé l'intelligence artificielle pour rédiger leurs copies.
Évidemment, on leur a donné la solution la semaine dernière, donc c'est de notre faute.
Mince.
On leur a expliqué comment faire. Comment ça s'appelle déjà l'application ?
ChatGPT. Vous, vous n'avez pas triché, c'est bien Pascal. À 12h20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Aujourd'hui, on va parler lunettes. Et puis juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture. Monique Younes nous emmènera au théâtre avec les juniors père et fils.
Tous ces sujets, bien sûr, on en parlera de 13h à 14h30. Allez-vous manifester, faire grève contre la réforme des retraites ? C'est une question possible.
La météo, c'est avec vous aujourd'hui, Peggy Broche. Bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi ?
Un temps gris et humide encore sur les deux tiers nord du pays.
Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
L'assaillant de la gare du Nord qui a blessé 6 personnes hier matin à l'arme blanche a pu être placé en garde à vue aujourd'hui, grièvement blessé lorsque les forces de l'ordre l'ont neutralisé. Il n'avait pu être entendu jusque-là. Le voilà donc désormais enfin face aux enquêteurs qui vont tenter d'en savoir davantage sur ses motivations, Guillaume Chiel.
Oui, car pour le moment, les raisons qui ont poussé ce ressortissant libyen à agresser 6 personnes hier matin restent extrêmement floues. Ce que l'on sait, c'est que son passage à l'acte semblait préparé. L'homme d'une vingtaine d'années a utilisé un couteau artisanal qu'il a pris le temps de confectionner lui-même au moment de son attaque puis de son interpellation. Il a tenu des propos en langue arabe, mais les policiers qui ont ensuite témoigné ont affirmé qu'il n'avait pas crié Allah Akbar. À ce stade, aucun élément ne permet d'évoquer une agression à caractère terroriste. Pour autant, le parquet antiterroriste reste en évaluation. L'assaillant est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, émise il y a 3 ans. Son audition par la brigade criminelle devrait permettre de déterminer les suites à donner à l'enquête.
Merci Guillaume Chiez. Vous le disiez, il était visé par une OQTF, obligation de quitter le territoire. Mais ces OQTF, comment ça marche ? Sur quels critères sont-elles délivrées ? On y revient après le journal.
RTL Midi.
Elisabeth Borne demande donc aux syndicats de ne pas pénaliser les Français.
La première ministre lance, je cite, un appel à la responsabilité alors que la mobilisation contre la réforme des retraites s'organise. Au-delà de la journée de manifestation du 19 janvier que l'on connaissait déjà, puisque ce matin, la CGT Pétrole annonce d'ores et déjà des journées de débrayage. Arnaud Touche, est-ce qu'il faut s'attendre à revoir les images de l'automne dernier, ces files d'attente interminables devant les stations-service?
Alors jeudi prochain, non, soyons clairs, 24 heures de blocage dans les raffineries, ça n'entraînera pas de longues files d'attente dans les stations, sauf si les Français font le plein par précaution. Mais la CGT Pétrole est très claire, elle envisage bien des baisses de débit et des arrêts dans l'expédition des carburants. Et là, c'est toute la chaîne qui risque de se gripper, comme le détaille Eric Cellini, le coordinateur du groupe Total.
Si l'ensemble des professions nous rejoignent dans ces mouvements, non seulement il n'y aura pas d'expédition de produits, mais de toute façon, même dans les stocks existants, le produit ne pourra pas sortir parce qu'il sera bloqué par des gens des dépôts, par les transports, etc. Tout dépend effectivement de l'ampleur de la mobilisation par ailleurs.
Et dans tous les cas, le syndicat a déposé des préavis de grève pour jeudi prochain, bien sûr, mais aussi le 26 janvier et le 6 février.
Mais Arnaud, il n'y a pas que dans les raffineries qu'on prépare la mobilisation, dans les transports également.
Oui, SNCF, RATP, même combat. Tous les syndicats appellent à la grève jeudi prochain, ce qui laisse présager de fortes perturbations sur les rails, notamment à la RATP, où les régimes spéciaux sont toujours en vigueur.
Merci beaucoup Arnaud Touche.
Cette proposition de loi, dont le destin semble déjà scellé aujourd'hui à l'Assemblée, c'est le Rassemblement national qui a la main sur l'ordre du jour. C'est la fameuse niche
parlementaire. Exactement. Effectivement, cette niche qui permet à l'opposition de mettre à l'ordre du jour quelques-unes de ses propositions. 7 donc aujourd'hui pour le RN. Parmi elles, le retour de l'uniforme à l'école. On y reviendra à 12h40. Mais aussi, Marie Mollet, la suspension des ZFE, ces zones à faibles émissions qui interdisent les véhicules les plus polluants dans les grandes agglomérations.
Oui, exactement. Une idée directement inspirée par la France Insoumise qui demande un moratoire sur les ZFE pour avoir plus de temps pour développer les transports. Et c'est toute la tactique du RN aujourd'hui. Aller piocher des idées, des textes, directement chez la concurrence, à droite comme à gauche, pour forcer les autres groupes à voter une loi estampillée RN, ce qui serait une nouvelle étape de la normalisation. Mais sauf surprise, la stratégie devrait échouer. Sur les autres bancs, on n'est pas pressé de faire ce cadeau au RN et de sauter à pieds joint dans ce piège politique. Alors ce matin, Marine Le Pen accuse ses adversaires de sectarisme au détriment des Français lorsqu'elle propose d'exonérer les hausses de salaire jusqu'à 10%.
Bravo, c'est comme à l'école des fans, à peu près tout le monde a gagné au concours de mauvaise foi ce matin dans vos interventions. La réalité, c'est que cette proposition, elle vous gêne. Parce que si vous étiez de bonne foi, vous devriez la voter. Alors arrêtez de penser à vos petites postures politiciennes. Pensez aux Français qui ont besoin, et aux entreprises d'ailleurs, qui ont besoin de cette mesure.
Une niche parlementaire dans laquelle le RN aura soigneusement évité les sujets qui fâchent. Rien sur l'immigration, on se réserve pour le projet de loi immigration de Darmanin, assure Marine Le Pen.
Marie Mollet du service politique d'RTL, merci. Les socialistes, eux, votent pour élire leur nouveau premier secrétaire. Les 41 000 adhérents sont invités à départager les motions, les textes d'orientation du parti aujourd'hui. Les deux finalistes seront ensuite départagés la semaine prochaine avant un congrès prévu à Marseille à la fin du mois. Parmi les grandes questions à trancher, évidemment, pour les socialistes, leur place au sein de la NUP.
2 ans après la mort du jeune Morgan Keane, les chasseurs mis en cause ont été condamnés ce matin.
Le jeune de 25 ans avait été mortellement touché par balle alors qu'il coupait du bois dans son jardin. Une battue était organisée ce jour-là à proximité. Bonjour Patrick Hisson.
Bonjour.
L'organisateur de la battue et le tireur ont été respectivement condamnés ce matin à 18 et 24 mois de prison avec sursis.
Oui, et c'est un peu moins que ce qu'avait requis le procureur qui avait réclamé 6 mois ferme pour les deux hommes. Et même si l'avocat du frère de la victime considère qu'il s'agit d'une peine exemplaire de nature à faire réfléchir les chasseurs, eh bien les amis de Morgan Keane étaient de leur côté très déçus et très émus à l'image de Peggy.
Ce n'est pas suffisant. Le message qui est envoyé, c'est que si vous tuez quelqu'un, il n'y a absolument pas de conséquences. Et ce qui m'attriste, c'est que le directeur de la battue, finalement, dans 5 ans, il a le droit de rechercher. Et ça, pour moi, c'est une aberration.
Ce n'est pas l'avis, par contre, de la Fédération de chasse du Lot et de son vice-président Jean-François Co.
Il tenait pas le fusil. Enfin, quand un patron d'entreprise, de conducteur de camion, il met ses chauffeurs sur la route, il n'est pas responsable du chauffeur qui grille un stop ou un feu rouge.
Les chasseurs qui s'étaient constitués partie civile ont obtenu une condamnation d'1 euro de la part de l'auteur du coup de feu mortel, Julien Ferral, qui, en plus de sa peine avec sursis, a de son côté été condamné à un retrait à vie du permis de chasse. Son avocat a décidé de ne pas faire appel.
Patrick Hisson à Cahors pour RTL. Il avait fait une grosse promotion. Eh bien, elle semble avoir été efficace. Les mémoires du prince Harry s'arrachent. Plus d'1 400 000 exemplaires vendus dès le premier jour pour
c'est
l'édition
sidérant.
En anglais.
Le chiffre que vous donnez est sidérant.
Mais c'est pour ça que je me suis permis de le donner.
C'est jamais arrivé en France qu'un livre en une journée.
Alors, c'est pas en France, hein, c'est l'édition anglaise.
Ah oui, c'est dans le monde entier.
Oui.
Ah, je pensais que c'était qu'en Angleterre, pardonnez-moi.
Non, c'est...
Dans le monde entier.
Dans le monde entier,
d'accord.
Pour l'édition en anglais. Et d'accord. Ce sont les chiffres de l'éditeur, pour être tout à fait complet d'accord. Et précis. Mais c'est quand même pas mal. Hein.
C'est énorme, bien sûr.
Là aussi, c'est énorme ou pas? C'est la météo, en tout cas, c'est avec vous, Peggy Broche.
On a encore une perturbation. Alors, sur les deux tiers nord du pays, c'est vrai que le ciel va rester couvert avec de faibles pluies. Les pluies qui seront plus marquées cet après-midi sur les bords de Manche avec encore beaucoup de vent. Puis, je rappelle que le Pas-de-Calais est toujours en vigilance orange crue. Et sur un tiers sud, entre le sud de la Garonne et la région PACA, là, c'est un temps sec avec un léger voile, mais ça reste lumineux. Côté température, on est toujours sur de la douceur, de 8 à Aurillac à 17 degrés à Toulon, 16 à Bastia, 15 à Nice, 14 à La Rochelle et Bordeaux, 13 à Rennes, 12 à Paris et Brest, 11 à Strasbourg, 10 à Lyon et 9 à Grenoble.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
On va partir évidemment pour Lyon, comme on le fait tous les jours, pour un rendez-vous régional. Mais la semaine dernière, on a donné aux élèves qui nous écoutaient peut-être des indications pour tricher. Bah, comme ils nous écoutent, ils l'ont fait.
Bonjour Peggy Liodno.
Bonjour.
Pascal le disait, des étudiants ont décidé d'utiliser cette application dont on vous parlait, ChatGPT, une intelligence artificielle qui permet de répondre à tout ou presque et donc qui aide aussi à faire les devoirs.
Et oui, alors contrairement à ce que Pascal disait, hein, les étudiants nous écoutent certainement, mais tout ça s'est passé au mois de décembre, donc avant qu'on en parle la semaine dernière. À la faculté de Lyon, un enseignant demande à ses étudiants, 14 hein, en master, de travailler chez eux sur le thème suivant, définir les grands traits de l'approche médicale du handicap en Europe. Et surprise, au moment de la correction de ces 14 copies, il se rend compte que 7 d'entre elles, hein, 50% quand même, ont été réalisés grâce à l'intelligence artificielle, la fameuse application ChatGPT.
Oui, mais comment le professeur s'en est rendu compte, puisqu'on nous a expliqué, on l'a expliqué la semaine dernière, que c'était à chaque fois personnel. C'était en fonction de celui qui posait la question qu'on avait la réponse de l'intelligence artificielle.
Et oui, hein, effectivement, hein, c'est la question, puisqu'elle est présenter cette intelligence artificielle comme difficilement détectable. Et bien dans le cas précis, l'enseignant explique que les copies n'étaient donc pas identiques, hein, puisque l'application s'adapte à l'élève qui fait la demande et donc réalise un travail différent à chaque fois. Mais les 7 copies en question étaient toutes réalisées sur la même structure, avec des arguments similaires et donc dans le même ordre. Ils illustraient par exemple tous leurs propos avec le même exemple, hein, personnel relatif à une grand-mère ou un grand-père. Et c'est justement ce qui a mis la puce à l'oreille à l'enseignant. Et ensuite, bien, c'est tout simplement en demandant à l'une des élèves qui n'a pas pu mentir que le poteau rose a été découvert.
Mais alors les élèves, ils risquent quoi aujourd'hui pour avoir fait leur devoir comme ça ?
Eh bien rien, justement, car pour le moment, aucune règle a été définie concernant ces écrits provenant de ChatGPT. Ce n'est donc pas encore considéré comme de la triche. Hein. Et c'est bien pour cela que l'enseignant a dévoilé cette affaire. Le ministère de l'Éducation nationale prendrait d'ailleurs très au sérieux le sujet. Alors pour les étudiants que j'ai pu rencontrer, hein, ils connaissent tous pour la plupart, certains ont testé, mais ils estiment que cela peut quand même être un vrai danger.
Ça va plus les inciter à réfléchir.
Je trouve ça dommage que les étudiants utilisent une IA pour pouvoir réussir leurs études alors qu'il y a des professeurs qui sont là, qui viennent leur faire cours, qui prennent de leur temps.
Oui, c'est un gros risque pour le niveau et c'est aussi de la fraude, parce que c'est pas un travail qui est fait par nous-mêmes, donc ouais, dangereux je pense.
Donc un danger hein, peut-être pour l'avenir, mais concernant les 7 élèves en question, ils ont bien été notés, mais d'une copie à l'autre, le travail méritait entre 10 et 12,5 seulement. On est donc loin de l'excellence.
Merci beaucoup Peggy Liodno.
Dans un instant, on va parler des OQTF. Manifestement, on ne peut pas les faire respecter. Donc moi, je vais poser une question à Maxime Lévy. Est-ce qu'il faut les interdire, les abolir, les OQTF ?
OQTF,
pourquoi ça sert ?
On rappelle, c'est obligation de quitter le territoire français.
Peut-être qu'il faut arrêter cette procédure, tout simplement. À tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Au lendemain de l'attaque à l'arme blanche qui a fait 6 blessés dont un grave, Gare du Nord à Paris, l'assaillant a été placé en garde à vue ce matin pour tentative d'assassinat. Lui-même a été grièvement blessé hein, lorsque les forces de l'ordre l'ont neutralisé. Et comme RTL vous l'annonçait déjà hier après-midi, cet homme était visé par une OQTF, une obligation de quitter le territoire français en direction de la Libye. Bonjour Maxime Lévy.
Bonjour.
D'abord une OQTF en direction de la Libye. Ça peut surprendre car la Libye est un pays en guerre, on le rappelle. Ça veut dire que c'est une OQTF qui n'est pas applicable ?
Exactement, si le suspect est bien de nationalité libyenne, comme nous l'indiquent plusieurs sources, il ne peut concrètement pas être expulsé vers la Libye. C'est un pays, donc vous l'avez dit, qui était en guerre civile jusqu'en 2021. Des petits groupes armés dissidents sont toujours présents dans le pays. La France n'éloigne donc pas vers la Libye, c'est la règle, en raison de la très grande insécurité et instabilité politique, mais également du fait du manque de coopération, pour ne pas dire l'absence de coopération en la matière, entre Paris et Tripoli.
Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Qu'un Libyen, il reste en France ? Il est en rétention ? Il est en prison ? Il est où ?
S'il a commis un délit, il est en centre de rétention et en tout cas, il ne peut pas être éloigné vers la Libye. La France.
Mais s'il n'a pas commis de délit, il reste sur le territoire. On ne peut pas le faire appliquer.
C'est tout comme on n'expulse plus vers l'Afghanistan, on n'expulse plus non plus vers le...
Donc on voit combien la situation est hors contrôle. On rappelle combien de personnes sont visées par des OQTF chaque année en France ?
Alors depuis 2018, il y a chaque année entre 100 et 120 000 obligations de quitter le territoire français qui sont prononcées. C'est un chiffre en assez forte hausse par rapport aux années précédentes.
Chaque année ?
Chaque année.
Depuis combien de temps ?
2018.
Depuis 2018.
Donc ça veut dire qu'il y a 500 000 personnes ? Parce qu'il y a que 5% je crois d'OQTF.
Chaque année, il y a entre 100 et 120 000 OQTF qui sont prononcées. 2018, 2019, 2020, 2021, chaque année, c'est ces chiffres qui sont de cet ordre de grandeur. Donc avant le premier mandat d'Emmanuel Macron, les chiffres tournaient plutôt autour de 60 à 80 000 personnes visées par une OQTF. Donc,
et ça voudrait dire qu'il y en a combien sur le territoire en France aujourd'hui des OQTF ? En tout ?
En tout, j'ai pas fait le calcul avec entre celles qui étaient exécutées et celles qui ont été prononcées, mais disons qu'il y a entre.
Et puis c'est si je peux me permettre, Maxime, impossible de savoir puisque.
Parce que moi j'entendais le chiffre de 120 000 en tout. Je pensais que c'était qu'il y avait en France 120 000 OQTF.
C'est prononcé chaque année.
Oui, et je pensais que c'était pour chiffre général.
Et ça, c'est compliqué de connaître le chiffre de personnes visées sur le territoire français par une OQTF, puisque je parle sous votre contrôle, Maxime. Mais les gens qui partent d'eux-mêmes, on n'en entend plus forcément parler. Ceux qui respectent l'OQTF d'eux-mêmes.
Tout à fait. Il faut séparer les retours à la frontière forcés, escortés par la police, qui sont donc facilement quantifiables, des départs volontaires. Si l'on prend l'année 2021, il y a eu un peu plus de 10 000 retours forcés, pour je le disais, un peu plus de 100 000 OQTF prononcés cette année-là. Et c'est la tendance depuis plusieurs années. On compte 10 à 12% de ces OQTF qui sont exécutés en retour forcé, je le précise. Donc en clair, pour résumer, le nombre d'OQTF a bien augmenté depuis 5 ans, mais le nombre d'exécutions de retour forcé est lui resté assez stable en volume. Et cela peut s'expliquer par le manque de places dans les centres de rétention administrative qui ne sont pas extensibles à l'infini. Donc même s'il y a plus d'OQTF, compliqué de réaliser plus de retours forcés à la frontière.
C'est quoi les critères qui font qu'un individu est visé par une obligation de quitter le territoire français ?
Alors, il y en a beaucoup, il y a une dizaine de critères. Bon, je ne vais pas tous vous les énumérer, rassurez-vous, mais en clair, ce sont les personnes sans titre de séjour, celles dont le visa a expiré, celles dont le titre n'a pas été renouvelé, ou bien si votre demande d'asile a été refusée. Les personnes sont donc visées par des OQTF lorsqu'elles sont contrôlées dans la rue, lorsque l'administration s'aperçoit que leur titre n'est plus valable, ou bien lorsqu'une personne en situation irrégulière commet un délit et que l'on se rend compte de l'absence de titre. La personne a 30 jours pour quitter le territoire, et je précise juste que l'OQTF ne s'applique pas aux mineurs, aux personnes vivant en France depuis plus de 20 ans ou bien aux personnes mariées avec un ressortissant français depuis au moins 3 ans.
Maxime, les auditeurs ont peut-être entendu ce matin un peu avant 7h Alba Ventura parler de ces jeunes figurant dans le film Tirailleurs, actuellement au cinéma, qui étaient eux insérés, en train de se former professionnellement en France et qui sont également sous le coup d'une OQTF. Ça veut dire que toutes les OQTF ne ciblent pas nécessairement des personnes considérées comme dangereuses.
Tout à fait. Comme je le disais, les personnes visées par une OQTF sont celles repérées par l'administration comme étant sans titre de séjour ou bien dont le titre de séjour a expiré. Il n'y a pas véritablement de critères de probité ou d'absence de casier judiciaire. Même si un visa peut tout à fait être refusé ou retiré à une personne qui commet un délit ou un crime. Mais si vous voulez, la base, la règle générale est assez simple, c'est qu'une OQTF est délivrée aux personnes sans titre et elles peuvent tout à fait être très bien insérées, avoir grandi en France, travailler, comme c'est le cas effectivement des figurants du film Les Tirailleurs.
Merci beaucoup Maxime Lévy du service police-justice d'RTL.
Dans un instant, RTL Midi, votre vie, on parle des lunettes.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi, votre vie.
Votre vie, effectivement, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
Quand les lunettes, comme mes lunettes... Voilà les lunettes.
Sacha Distel.
Et les lunettes, donc objet du quotidien par excellence pour 7 adultes français sur 10 qui en portent, indispensable objet donc pour beaucoup. Bonjour Laurent Lévy.
Bonjour.
Vous êtes le président fondateur du groupe Optical Center, entreprise spécialisée, on le sait, dans l'optique. D'abord, question très pratique, combien ça coûte des lunettes ?
À partir de 39 euros jusqu'à 1000, le panier moyen est à 440.
Panier moyen, vous voulez dire ce qui reste à charge pour les Français ou pas?
Non,
du
ce
tout,
qui reste à charge pour les Français, alors chez nous, ce qui reste à charge pour les Français en moyenne, c'est 30 euros. Mais on vend beaucoup moins cher, c'est pour ça.
Bon, c'est raisonnable. Quelle est la somme en moyenne d'un Français?
440 euros.
440 euros, verre compris, monture compris.
Oui,
hein.
Oui. Verre et monture.
Est-ce que ce marché va également connaître une augmentation des prix due à l'inflation?
Les fournisseurs de montures ont augmenté leur prix de monture. Maintenant, nous, chez Optical Center, vous savez, ça fait 31 ans maintenant, on vend toujours de moins en moins cher. C'est pour ça que les Français préfèrent rentrer chez nous. On a l'enseigne numéro 1 en France aujourd'hui, puisque on fait plus grand chiffre d'affaires en optique et audition en France. Maintenant, donc, ça veut dire que quand un Français choisit un opticien, il rentre d'abord chez Optical Center. Ça, c'est une grande chance. Et je pense que c'est la conséquence, en fait, des prix bas qu'on fait et la conséquence du service également que donnent nos opticiens et nos audioprothésistes.
On disait en introduction, plus de 7 adultes français sur 10 portent des lunettes. Est-ce que c'est un chiffre qui progresse au fil des années? Est-ce qu'on peut y voir, par exemple, une incidence des écrans qui nous entourent de plus en plus aujourd'hui?
Oui. Le téléphone rend myope. Ça veut dire qu'auparavant, on regardait pour lire de près à 45 cm. Aujourd'hui, c'est 35 avec le téléphone. Et les 10 cm d'écart font en sorte que les gens deviennent myopes ou révèlent leur myopie plus rapidement. Ce qui veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de myopes, d'un côté. Et comme on vit plus longtemps, il va y avoir de plus en plus de presbytes à partir de 40-45 ans qui vont porter des lunettes avec des verres progressifs plus longtemps. Donc
le marché du nombre de marchands de lunettes qu'il y a dans une ville, dans n'importe quelle ville de France. Mais je sais pourquoi, c'est que les marges sont énormes. C'est-à-dire que la monture que vous vendez à 39 euros, elle vous coûte 1 ou 2 euros. Elle est fabriquée où, généralement en Chine?
Alors, 90% des montures fabriquées qui sont vendues sous marque ou pas sous marque sont fabriquées en Chine, 8% peut-être en Italie et 2% dans le reste du monde.
Et ça coûte rien du tout?
Non, ça coûte pas. Si vous avez des lunettes à 1 ou 2 euros, je suis prêt à en acheter, mais j'en trouve pas.
Mais c'est vrai que c'est très peu cher, les marges. La monture que vous vendez, vous multipliez par 10 ou par 15 le prix d'achat.
Non. La marge brute des opticiens est en général à 63%. Ça veut dire qu'il y a un coefficient de 2,5 en réalité entre les montures et les verres, pas plus. Il y a des marges brutes des opticiens. Par contre, les frais augmentent, les frais fixes augmentent, les loyers augmentent, l'électricité, bon, on l'a bien vu, les salaires augmentent. Évidemment, chez Optical Center, on augmente tous les ans au mois de janvier, depuis 31 ans, on augmente tous nos collaborateurs, les 5500 collaborateurs. Et ça, on le fait chaque année, et encore plus cette année, évidemment, avec l'inflation.
Eh ben, ils ont de la chance, vos collaborateurs.
C'est un message que vous passez.
Non, je ne me permettrai pas. Parler de quelque chose peut-être de moins austère que ces chiffres, parlons mode un peu, parce que ça compte aussi pour les lunettes. C'est quoi la tendance du moment? D'abord, est-ce qu'on porte autant de lentilles qu'avant ou est-ce qu'on a un retour vers les montures lunettes?
Non, on porte encore plus de lentilles qu'avant, et notamment des lentilles pour la presbytie également. Les gens portaient des lentilles pour les myopes auparavant, quand ils étaient myopes, et maintenant, même à 45 ans ou 50 ans, les gens portent des lentilles progressives. Ça marche bien.
Mais sur ceux qui ont des difficultés pour voir, le pourcentage de ceux qui portent des lentilles par rapport à ceux qui portent des lunettes,
7% des personnes portent des lentilles.
Ouais, c'est pas beaucoup, hein?
Non, c'est pas beaucoup.
Ça n'a pas pris finalement les lentilles. 7%, c'est très faible.
C'est très faible. Et en fait, par an, il y a 300 000 nouveaux porteurs et il y a 250 000 abandonnistes, des gens qui abandonnent de les porter pour une question de confort, alors qu'il y a des solutions aujourd'hui, pour une question de manipulation, alors qu'il faut juste les entraîner. Donc c'est ou pour une question de correction, parce qu'ils ne savent pas qu'on peut porter des lentilles progressives pour voir à la fois de loin et de près. Donc en réalité, ce marché va progresser en France également dans les années à venir.
D'un mot, parce qu'on porte des lunettes, Pascal, comme moi, quelle forme de monture il faut choisir aujourd'hui pour être tendance?
Mais écoutez, on vient de faire une collaboration avec Richard Orlinski, qui est un créateur, et on a des lunettes. Donc les lunettes qu'on a choisies ensemble pour cette collaboration, il y a beaucoup de métal. Le métal revient. Bon, évidemment, il y a des facettes parce que c'est Richard Orlinski, mais il y a beaucoup de métal, de matériaux assez fins finalement. Et d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de coloris et de montures assez typées finalement.
D'accord, donc du métal, de la finesse et de la couleur. On va essayer tout ça. Merci beaucoup.
Mais chez Groupe Optical Center, et c'était ma dernière question, on trouve uniquement votre marque ou il y a aussi des marques différentes?
Chez Optical Center, vous avez
Chez
Optical Center, vous avez Tom Ford, Ray-Ban, Prada, Dolce Gabbana, Gucci et compagnie. Et voilà. Et aussi Richard Rolassi et d'autres. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous. On a appris plein de choses. Il est 12h28 et je prends mes lunettes pour vous dire que nous allons en revenir avec les infos à 12h30.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL midi, il est 12h30.
RTL midi.
Le 12-30.
Céline Landreau et Pascal Praud.
Et donc à 12h30, l'info revient. C'est votre grande édition de la mi-journée, Céline.
Des cas de tuberculose qui se multiplient dans un lycée de Roubaix dans le Nord. Élèves, professeurs sont contaminés. On sera sur place dès le début de ce journal. À suivre aussi, bien sûr, la contestation contre la réforme des retraites. Elle s'organise dans les raffineries, notamment la CGT Pétrole appelle à plusieurs journées de mobilisation. Elisabeth Borne, de son côté, demande aux syndicats de ne pas pénaliser les Français. Les Occidentaux qui amplifient encore leur soutien militaire à l'Ukraine en livrant davantage d'armes et notamment désormais des chars lourds. Et puis le retour de l'uniforme à l'école au risque de froisser jusque dans la majorité. Brigitte Macron assure qu'elle est pour, mais est-ce vraiment une bonne idée? On la posera cette question au sociologue Michel Fies, auteur de L'école à la ramasse, juste après le journal. C'est aussi la question du jour sur notre site rtl.fr. Faut-il rendre obligatoire le port de l'uniforme à l'école? Juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT Midi. Aujourd'hui, Monique Younes nous emmène au théâtre. Nous irons voir les Junio père et fils.
Et puis on sera avec les auditeurs à partir de 13h. J'ajoute à tout ce dont vous avez parlé les propos d'Emmanuel Macron dans le journal Le Point. Il estime qu'il n'a pas demandé pardon à l'Algérie pour la colonisation. Qu'en pensez-vous?
La météo complète à la fin du journal, mais déjà un indice avec vous, Peggy Broche.
Encore gris et humide sur les deux tiers nord du pays.
Merci, Peggy.
Jusqu'à 13h.
RTL Midi.
Vive inquiétude dans un lycée de Roubaix, dans le Nord, où les cas de tuberculose, cette maladie que certains croyaient disparue, se multiplient ces derniers mois. Et elle touche, Emmanuel Michel, les élèves comme leurs professeurs.
Oui, devant le lycée Louis Loucheur, beaucoup d'élèves veulent nous parler des cas de tuberculose, comme ce lycéen en terminale CAP qui a dû subir des examens.
Au début, c'était notre classe qui a eu des rendez-vous pour aller à l'hôpital. Il n'y avait que notre classe qui a commencé les rendez-vous. Et après, ça a commencé à se propager dans le lycée. Et c'est tout le lycée qui ont reçu des rendez-vous. À la radio, j'étais négatif. Après, dans mon sang, ils ont vu que j'étais positif. Mais j'ai la tuberculose latente.
Une tuberculose latente, c'est-à-dire non active et non contaminante. Mais il doit prendre un traitement. Les enseignants aussi sont inquiets. J'ai pu échanger avec eux par message. 4 d'entre eux seraient positifs. Ils dénoncent un défaut de responsabilité de la part de la direction, un sentiment partagé par les élèves.
J'étais mis au courant depuis le mois d'avril et qu'ils ont laissé traîner et qu'ils ont mis au courant personne. Et quand ils ont mis au courant les personnes, il y avait déjà 6 personnes de contagieuses.
Le rectorat assure que les réunions et le dépistage nécessaires ont été organisés. Officiellement, il y aurait 10 d'infections latentes et 2 cas de tuberculose.
Emmanuel Michel dans le Nord pour RTL. L'assaillant qui a fait 6 blessés hier matin, Gare du Nord, a parié lors d'une attaque à l'arme blanche, a été placé en garde à vue. Ce matin, les enquêteurs vont donc tenter d'en savoir plus sur les motivations de cet homme qui, selon nos informations, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en direction de la Libye.
RTL Midi.
Elle ne veut pas d'une France paralysée. Elisabeth Borne demande aux syndicats de ne pas pénaliser les Français dans leur mobilisation contre la réforme des retraites.
Et cela alors que la contestation s'organise dans les raffineries, notamment la CGT Pétrole appelle ainsi à plusieurs jours de grève, les 19, 26 janvier, mais aussi le 6 février, avec, si nécessaire, je cite, l'arrêt des installations de raffinage.
À l'hôpital, la colère des soignants ne retombe pas non plus, mais ce n'est pas la grève qui est privilégiée pour l'exprimer.
Non, désormais, désormais, infirmiers et aides-soignants ont recours aux arrêts maladie massifs pour se faire entendre. Bonjour Nathan Bocard.
Bonjour.
Et ça, c'est déjà le cas dans au moins 5 services d'urgence.
Oui, tout est parti des urgences de Thionville et la nouvelle s'est vite répandue. Sarreguemines en Moselle, Saint-Avold en Lorraine, Saint-Joseph à Marseille, puis Pontoise dans le Val d'Oise. Partout, la majorité des urgentistes ont déposé des arrêts maladie en même temps. Ces soignants se disent à bout de souffle et n'ont plus les moyens d'accueillir le flux de patients. Une situation qui n'a rien de nouveau, mais jusqu'à présent, les grèves ne suffisaient pas à faire passer le message. C'est ce qu'explique Monique François, déléguée syndicale FO Santé en Lorraine.
Il faut savoir que dans le service public de la fonction hospitalière, on a une obligation de continuité du service public. On peut pas bloquer, on peut pas vraiment être en grève. À force de pas être entendu, les gens n'ont plus d'autres alternatives parce que non seulement ils veulent se faire entendre, mais ils sont épuisés.
Il est vrai que les hôpitaux sont plus à l'écoute, en tout cas ils le semblent. À Thionville, par exemple, la direction a embauché 12 nouveaux urgentistes. À Sarreguemines, un plan de réorganisation a été proposé. Mais les syndicats dénoncent des rustines et le répètent en cœur. Si des mesures de fond ne sont pas prises, ces arrêts de travail pourraient se multiplier en France dans les prochaines semaines.
Nathan Bocard, merci beaucoup.
Le gouvernement redoute un janvier noir sur le front social à cause de la réforme des retraites, on l'a dit, mais pour les consommateurs, la menace, c'est un mars rouge.
Oui, car les prix pourraient s'envoler encore au printemps dans les supermarchés à l'issue, vous le savez, des négociations entre les industriels de l'agroalimentaire et la grande distribution, négociations qui sont en cours. Les industriels demandent des augmentations de tarifs comprises entre 10% et 40% selon les produits. Ça va faire mal, prévient l'expert conso Olivier Dauvert. Vous le connaissez, il fait notamment partie de l'équipe de Julien Courbet sur RTL.
Ce qui va se passer cette année, c'est que l'inflation va être beaucoup plus concentrée sur quelques semaines, alors que l'année dernière, elle avait été finalement étalée sur l'ensemble de l'année. 12% à peu près, c'était le montant de l'inflation des produits alimentaires en grande distribution, mais ça avait démarré en février-mars, et c'était compté jusqu'en décembre. La particularité de 2023, c'est qu'on risque d'avoir un niveau d'inflation finalement assez proche, mais qui va se répercuter dès les premiers jours de mars, et la perception d'inflation, évidemment, ne sera pas la même pour les Français, parce que ça va être en apparence beaucoup plus violent. Et voilà pourquoi il faut s'attendre à un mars sanglant, à un mars rouge sur les prix. C'est ça qui va faire mal.
Olivier Dauvert, expert conso au micro RTL de Pierre Herbulot.
En fait-elle trop ? Après le 20h de TF1 en début de semaine, Brigitte Macron est à la une du Parisien aujourd'hui en France ce jeudi.
La première dame répond aux questions des lecteurs du quotidien et se prononce notamment pour le retour de l'uniforme à l'école. On y reviendra longuement après le journal. Elle parle aussi de l'hôpital, des retraites, des prises de position politiques qui divisent jusque dans la majorité. Thomas Desprez, même si en public, on se garde bien de toute critique.
Oui, Brigitte Macron, c'est un sujet très, très, très sensible. En Macronie, souvenez-vous de ces mormons, ces très proches du chef de l'État qui, en coulisses, luttaient contre l'influence de la Première Dame. Aujourd'hui, c'est simple, tous ou presque ont été évincés du paysage. Alors, les conseillers de l'exécutif manient le sujet avec une précaution infinie. Je n'imagine pas qu'elle ait pu s'exprimer sur ces sujets-là sans caler sa position avec le président, explique l'un d'eux. Pour Emmanuel Macron, c'est donc très utile. Ça permet d'envoyer des messages aux Français sans trop s'exposer. Mais pour les ministres concernés, disons que ça peut agacer, reconnaît un autre. Prenons l'exemple de l'uniforme à l'école. On sait que le ministre Pap Ndiaye est très opposé à une telle mesure, sauf qu'en coulisses, Emmanuel Macron, lui, est plutôt favorable. Brigitte, c'est un levier d'influence comme un autre, glisse un communicant. Mais attention à ne pas trop en faire. Pour le moment, il y a l'excuse des Priès jaunes, prévient un conseiller, mais ensuite, il va falloir tranquillement qu'elle reprenne sa place. Une place dans l'ombre pour ne pas trop gêner. Tout est donc histoire de dosage.
Thomas Desprez, Emmanuel Macron, il ne peut pas se représenter dans 4 ans. Suivez mon raisonnement.
Vous pensez que Brigitte Macron pourrait avoir envie de se présenter ?
C'est arrivé parfois qu'une femme de président se présente. Elle s'appelait Hillary Clinton.
C'est vrai, elle n'a pas été élue. Et en France, ce n'est jamais arrivé.
Et ce n'était pas à la suite directe de son mari.
Bien sûr, mais il ne faut jamais rien écarter.
Brigitte Macron dit toujours que l'Élysée, ce n'est pas l'endroit qu'elle préfère. Et qu'elle aurait aimé qu'Emmanuel Macron, forcément, ne se représente pas forcément.
Ben c'est pour ça, là, se présentera peut-être elle.
RTL Midi.
Alors que les combats font toujours rage à Soledar dans l'est de l'Ukraine, les Occidentaux renforcent leur soutien militaire à Kiev.
Oui, jusque-là, les Occidentaux ne livraient que des armes défensives et des blindés légers. Mais la Pologne annonce désormais qu'elle va envoyer une compagnie de chars d'assaut lourds, des chars allemands. Bénédicte Tassar, c'est un nouveau pas qui est franchi.
Oui, le Léopard, c'est l'un des engins terrestres les plus puissants. 14 blindés vont partir pour l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré hier le président président polonais Duda en visite à Kiev. Andrzej Duda qui précise que cette livraison se fait dans le cadre de la coalition internationale qui est en train de se construire. On va en reparler d'ailleurs la semaine prochaine quand aura lieu la réunion des 50 pays de la coalition sur la base américaine de Ramstein en Allemagne. Vendredi 20 janvier, retenez cette date, il devrait y avoir de nouvelles annonces pour armer davantage l'Ukraine. D'abord parce que Zelensky les réclame urgemment, ces armes lourdes. Il en veut 250 à 350 chars lourds et des missiles longue portée aussi. Armer solidement l'Ukraine aussi parce que les Occidentaux croient qu'elle peut gagner, qu'elle peut aller jusqu'en Crimée avant l'automne prochain. Mais il faut faire vite. D'abord, la Russie va bientôt annoncer une nouvelle mobilisation. 500 000 nouveaux soldats russes. Ensuite, les pertes humaines des deux côtés sont énormes. On parle déjà de 100 000 morts et blessés.
Bénédicte Tassard, chef du service étranger de RTL. Un mot de sport pour vous signaler les débuts réussis de l'équipe de France de handball hier lors de son premier match contre la Pologne. Victoire 26 à 24 pour les Bleus qui affronteront maintenant samedi l'Arabie Saoudite pour leur deuxième match du tournoi. La météo, on vous retrouve Peggy Broche pour un après-midi un peu gris.
Oh, bien gris même, on peut y aller sur les deux tiers nord du pays. Ça restera couvert de toute façon avec de faibles pluies éparses. Alors elles seront peut-être un peu plus marquées cet après-midi sur les bords de Manche avec encore pas mal de vent. Et en revanche, sur un tiers sud, entre le sud de la Garonne et la région PACA, là c'est un temps sec toujours et lumineux malgré un léger voile. Côté température, encore de la douceur, 8 à Langres, 10 à Ambérieu, 11 à Cherbourg et Clermont-Ferrand, 12 degrés à Paris, Limoges et au Havre, 13 au Mans, 14 degrés à Tarbes et Montpellier, 15 à Marseille, 16 à Perpignan et 17 à Toulon.
Merci Peggy.
L'uniforme, est-ce que vous êtes pour ou contre ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu en France obligation de porter un uniforme.
Jamais.
L'histoire, c'est jamais arrivé.
À l'école
de la République. Arrivé. Eh bien, on va en parler dans une seconde. C'est peut-être pour demain.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Praud, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Praud et Céline Landreau.
Je trouve que la blouse détruit toute personnalité. Puis enfin, quand on voit dans la cour, ça fait uniforme un peu. Alors moi, je suis contre la blouse, ça me plaît pas.
La blouse, qui à défaut d'un uniforme, était la règle à l'école publique française jusqu'en 68 en tout cas. Et on écoute cette archive aujourd'hui puisque le débat sur le retour de l'uniforme fait son entrée à l'Assemblée nationale. C'est une proposition de loi portée par le Rassemblement national. Brigitte Macron, dans les colonnes du Parisien en France, dit qu'elle est pour. Et pour en parler, nous accueillons Michel Fils. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, auteur de L'école à la ramasse, c'est aux éditions de l'Archipel. Comment on peut expliquer que ce retour, ou en tout cas cette obligation de porter l'uniforme à l'école, revienne comme un serpent de mer encore aujourd'hui ?
Bon, alors d'abord, vous avez eu raison de souligner qu'il ne s'agit pas d'uniforme, mais de tenue uniforme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Dans un cas, on a évidemment un vêtement assez strict que les élèves français ont porté, mais avant la Troisième République, hein, essentiellement sous l'Empire, le premier et le troisième, hein, au temps où on avait dans les lycées, effectivement, des garçons, puisque c'était essentiellement des garçons, hein, porté une tenue quasi militaire. Alors ensuite, effectivement, on a porté au fil du temps des blouses, hein, qui ont pu être grises, bleues, en toile, et même en matière synthétique.
Qui servait, si je peux me permettre, surtout à ne pas se tacher avec les encriers.
Absolument, absolument. Hein. Donc c'était des affreuses blouses grises qui permettaient évidemment d'éviter de tacher les beaux vêtements. Et puis, pour un certain nombre d'expériences, hein, moi j'ai connu ça en chimie, on est passé aussi à ce type de blouse parce qu'on portait des blouses en plastique. Voilà, et elles pouvaient prendre feu. Voilà. Mais donc, pour faire des expériences, il était naturel de porter un vêtement de protection. Mais c'est une autre philosophie. Alors, derrière
Monsieur
cette
Fils,
question...
Pourquoi, Monsieur Fils, oui, pourquoi on parle de l'uniforme aujourd'hui ? Pour deux raisons. D'abord parce que ça réglerait les tenues religieuses à l'école. Et la deuxième chose, c'est parce que ça réglerait aussi les différences de revenus entre les parents. C'est pour ça qu'on parle de l'unité, de l'uniforme. Alors est-ce que vous validez ces deux arguments ?
Alors, je valide le premier, Et d'ailleurs, je vous remercie de l'avoir exposé, parce que quand Mme Macron dit que l'uniforme, c'est un moyen d'éviter des querelles à propos de marques, voilà, est-ce qu'il n'y a pas derrière l'intention déguisée de se débarrasser de la question des tenues religieuses, une fois pour toutes ? Bon, si effectivement...
C'est pour ça que c'est le centre du débat aujourd'hui.
Voilà, alors, voilà, mais encore une fois, vous le mettez bien en avant, mais je n'ai pas entendu beaucoup de commentaires.
Mais parce que
commentaires.
C'est difficile, le politiquement correct n'empêche de dire clairement les choses parfois aujourd'hui.
Absolument. Voilà, alors sur la deuxième argumentation, là non, je ne peux pas vous suivre, tout simplement parce que si l'on portait une tenue uniforme pour cacher toutes les différences entre les élèves, il faudrait aussi s'occuper des baskets, hein, recouvrir les baskets, enlever les montres, les bijoux, les colliers, les tatouages qui marquent la différence des uns et des autres. Voilà. Or, le fait et l'anachronisme, c'est que, alors que notre société, depuis des décennies, fait tomber les uniformes les uns après les autres. Hein. J'ai connu, sans doute, comme vous, les agents EDF portant l'uniforme, hein, les agents de la RATP, conducteurs ou autres, qui portaient l'uniforme. Mais dans une société individualiste, on ne porte plus l'uniforme.
Alors l'uniforme derrière l'uniforme... Il existe quand même aux Antilles. Est-ce que ça a réglé certains problèmes là-bas ou est-ce qu'on rencontre les mêmes qu'en métropole ?
Mais vous savez, je pense que l'uniforme, c'est une question aussi de choix ou pas des élèves. Bon, il y a des tenues uniformes, hein, vous évoquez l'outre-mer, effectivement, des t-shirts blancs, ça n'a rien effectivement de catastrophique. Même de belles tenues, costumes, cravates, pourquoi pas. Mais moi, ce que je pense, c'est que dans une démocratie, il faut que les principaux intéressés valident. Ce genre de choses. Voilà, un peu comme le fait d'ailleurs Pape Ndiaye aujourd'hui en disant à chaque établissement de choisir. Mais moi, je pense que ce serait dangereux de choisir contre l'avis des élèves. Donc si les élèves, de mon point de vue, sont favorables au port de l'uniforme, qui donne effectivement aussi un sentiment de fierté, d'appartenance à une école, voilà, pourquoi pas. Voilà. Mais je pense que derrière l'uniforme, il y a cette espèce de nostalgie de l'autorité, hein, comme si en se mettant un uniforme sur le dos, on allait rétablir l'autorité des professeurs. Alors pourquoi pas remettre les estrades pendant qu'on
Mais je trouve que ça ne serait pas une mauvaise idée, des estrades, pour tout vous dire, Monsieur Fize. Sachez qu'à l'école Saint-Laurent, rue Lafayette, dans le 10e arrondissement, école catholique, eh bien les petits ont une blouse et c'est une école heureuse. Ils ont leur nom et leur prénom brodé. C'est un parent d'élève qui m'envoie cela en même temps qu'il nous écoutait. Merci, Monsieur Fize.
Attendez. On n'est pas toujours malheureux quand on porte une blouse, hein, encore une fois. Mais je pense que le sentiment d'appartenance à une école, disent l'autre, c'est aussi quelque chose d'important. Je pense qu'on pourrait imaginer
merci
un référendum.
Et alors, on va faire un référendum sur l'uniforme à l'école. Alors, on va faire un référendum pour tout bientôt. Mais en revanche, les auditeurs peuvent donner leur avis. Et c'est ce qui nous importe au 3210 tout à l'heure. Merci, Monsieur Fize. Vous êtes sociologue et auteur du livre « L'école à la ramasse » aux éditions de l'Archipel. Alors que Monique Younes est arrivée, elle n'a pas d'uniforme.
C'est un costume de scène, puisqu'elle nous emmène au théâtre.
Voilà, regardez.
On dirait Sheila dans Space il y a quelques années. À tout de suite.
Voilà, bonne idée.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes.
RTL.
Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, on va au théâtre. Quel théâtre, Monique Younes ? Bonjour.
Bonjour, Edward the Sevens.
Edward VII en français dans le texte. Pour y retrouver Gérard Jugnot et Arthur Jugnot, père et fils, dans Le Jour du Kiwi. Une comédie écrite, Monique, par Laetitia Colombani, mise en scène par Ladislas Chola. Bon, c'est quand Le Jour du Kiwi ?
Mais c'est demain. C'est vendredi, tous les vendredis d'ailleurs, Barnabé Leroux, alias Gérard Jugnot, mange un yaourt au kiwi de Nouvelle-Zélande. C'est son kiff, son voyage exotique, son petit plaisir de fin de semaine. Et puis un vendredi...
Quand j'ai voulu vendredi prendre mon kiwi dans le frigo, eh bien, il avait disparu. Disparu, envolé. Je suis sûr qu'il était là la veille. Je le revois encore tranquillement installé entre l'ananas et le litchi. J'ai sorti tout le frigo, j'ai tout vérifié. Rien, plus de kiwi.
Et il ne l'a pas mangé, son kiwi ?
Mais vous ne connaissez pas Barnabé Leroux, c'est un expert comptable qui ne fait rien par inadvertance. Il a 61 ans et sa vie est réglée au millimètre. Il est maniaque comme personne, misanthrope au possible, procédurier comme on n'en a jamais vu, malheureux, inconsolable depuis qu'il a perdu sa femme il y a 5 ans. J'ai quand même demandé à Gérard Jugnot s'il avait des points communs avec son personnage.
Il y a une petite maniaquerie chez moi.
C'est-à-dire ?
Dans le métier, même par rapport au texte, Arthur, il adore s'il peut raconter n'importe quoi, improviser. Donc ça, c'est des petites choses qui peuvent m'énerver. Mais oui, j'ai sans doute des traits de caractère un peu vieux con, quoi.
Il n'a pas l'avarice, il a la misanthropie par moment. Une petite maniaquerie, il faut que les choses soient à leur place.
Oui, surtout, j'aime le surgelé. Voilà. Ça l'énerve beaucoup.
Mais vous n'allez pas...
Mais lui, il range pas bien sa loge.
C'est vrai.
Voilà.
Le père et le fils sont crédibles sur scène.
Alors, tous deux sont des excellents acteurs, comme le sont leurs partenaires, d'ailleurs, Florence Pernel et Elsa Rosenskop. La pièce brasse beaucoup de thématiques. Il y a la relation père-fils, qui est problématique, la perte d'un être cher, la solitude, les limites de la psychanalyse aussi, parce que ce cambriolage de yaourt, il va bouleverser la vie de Barnabé Leroux, comme celle de son fils, d'ailleurs, qui croit de toute évidence que son père est atteint par la maladie d'Alzheimer. Ils vont se rapprocher, se redécouvrir, le fils cherchant à ramener son père à la raison et le père s'évertuant à convaincre son fils de l'existence de ce cambrioleur de yaourt mais aussi de biscuits Pimms et autres papiers toilettes.
Non, c'est vrai. S'il y avait quelqu'un, l'alarme sonnerait.
Bah oui.
Oh, elle ne sonne pas.
Bah non.
Bah, c'est donc qu'il n'y a personne.
Et bah voilà.
Enfin, personne d'humain.
Donc c'est la première fois que vous êtes tous les deux sur scène. Ça fait quoi de jouer avec son fils, son père ?
C'est assez troublant. Alors pour les gens, je crois que c'est bien parce que finalement, ça colle. Et puis surtout, ça nous permet de nous voir parce qu'il est tellement occupé, et moi aussi, qu'on se voit assez peu. Donc finalement, on va pouvoir se voir, peut-être même d'ailleurs se redétester.
Et est-ce que vous avez eu des rapports aussi distendus que le père et le fils que vous jouez sur scène ?
J'espère pas, quand même.
Non.
On a eu des petits coups de gueule, on a eu un confinement un peu compliqué. À part ça, on s'entend très bien et j'ai beaucoup de fierté à son égard.
Et vous, Arthur ?
C'est impressionnant de jouer avec un monument.
C'est un monument du théâtre français.
Et pas que.
Et en fait, ça multiplie les émotions. Alors évidemment, je suis avec mon père, donc je peux pas arriver et jouer avec une gueule de bois. Je redeviens un enfant, donc parfois c'est un peu déstabilisant à 42 ans quand on est dans un rapport professionnel. Mais en même temps, on joue un père, un fils, on se dit des choses parfois dures, parfois belles. Tout ça est mélangé par notre bagage et donc ça multiplie très fortement ce qui se passe chez nous.
Non, c'est vrai, quand je lui dis « ta mère », je ne peux pas ne pas penser à la sienne, qui n'est d'ailleurs heureusement pas décédée. Mais
bon, dire, on embrasse.
C'est ça qui est troublant. Quoi. Quand je joue avec un autre acteur, je lui dis « ta mère », c'est là où c'est à la fois plus facile et en même temps troublant.
Oui, c'est ça qui est aussi troublant pour le public. Sur scène, le père et le fils se balancent leurs quatre vérités. Le père admettant que son fils n'a pas été sa priorité. Mais est-ce que c'est vrai dans la vraie vie, ai-je demandé à Gérard Jugnot.
Il y a sans doute eu des manques, mais...
Bon, je vais prendre la défense de ce monstre sacré de l'art dramatique. Mais non, moi j'ai eu une enfance extrêmement heureuse et un papa très présent parce qu'il travaillait beaucoup et qu'il n'était pas beaucoup là. Quand il était là à fond. Mes parents étaient séparés, mais donc quand c'était le week-end de mon père, ou tous les mercredis, j'avais un rapport très intense parce que tout d'un coup, l'envie de me voir ou la culpabilité d'être séparé faisait qu'il était là et il était à fond. Et donc j'étais un enfant très heureux.
Je suis content de l'entendre.
Mais c'est vrai.
C'est ça aussi qui est très joli dans cette histoire, quoi, de se retrouver sur une scène, parce que finalement, c'est des choses qu'on s'était pas vraiment dites. C'est assez touchant, quoi. Et je pense que pour les gens, ça l'est aussi.
Ben oui, ça, il est touchant quand même.
Oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut...
Que vous soyez là, Monique.
Bien sûr, pour que les... vous êtes la psychanalyste
mais
du couple Jugnot.
J'ai découvert qu'effectivement, ils ne se voyaient pas beaucoup. Et le fait de faire cette promotion ensemble, d'être ensemble sur scène, était sans sas pour eux. Donc Gérard Jugnot, Arthur Jugnot, qui jouent ensemble pour une centaine de représentations. Le jour du kiwi, c'est au théâtre Édouard VII, une comédie de Laetitia Colombani. C'est inspiré d'un fait divers qui s'est passé au Japon, paraît-il, véridique. C'est du mardi au dimanche, 20h45, et les places vous coûteront de 10 euros, où vous ne verrez rien du tout, à 75 euros, où vous verrez tout.
Où vous n'entendrez pas. Bon, merci Monique. Merci beaucoup, il est 12h58. On va partir avec les auditeurs après le rappel des titres. À tout de suite.
RTL Midi.